Ce soir, nous allons donc traiter du purgatoire. Et nous allons le traiter d'une manière originale parce que, après vous avoir donné l'enseignement dogmatique de l'Église, je vous donnerai lecture de longs extraits de ce qu'on appelle le manuscrit du purgatoire, qui est un texte qui a été écrit par une religieuse, une sœur, qui a été visitée par une âme du purgatoire, qui était elle-même une religieuse qui était dans son couvent et qui avait été assez désagréable avec elle. Et le bon Dieu lui a demandé au purgatoire de sanctifier, de mériter sa sortie du purgatoire en sanctifiant celle qu'elle avait blessée et en faisant une sainte. C'est assez original. Et donc, il permettait à cette âme du purgatoire, tel un fantôme, d'apparaître à cette religieuse, sa consœur, pour la sanctifier, pour lui donner des conseils spirituels, pour lui dire des vérités, et ainsi lui permettre de devenir très vertueuse. Et donc, elle, au début, elle croyait que c'était diabolique, que c'était des apparitions très désagréables. Et en fait, non. Et donc, c'est assez impressionnant, puisque c'est très réaliste. C'est une âme, donc, défunte, c'est-à-dire l'âme sort du corps. Elle est jugée directement par Dieu, et Dieu lui demande d'intervenir auprès d'une autre personne pour lui parler. Alors les âmes du purgatoire sont des âmes saintes parce qu'elles sont mortes en état de grâce, mais elles doivent réparer les suites de leurs péchés, les conséquences. Je prends toujours le même exemple. Vous avez des enfants qui jouent devant une boulangerie et qui la boulangère sort une fois, deux fois, trois fois, les enfants s'en moquent complètement. Le ballon finit par casser la vitrine. La vitrine est cassée, mais les gâteaux aussi sont gâtés par les morceaux de verre. Eh bien, il ne suffit pas de demander pardon très sincèrement à la boulangère. Il faut aussi réparer la vitrine et payer les gâteaux. Voilà. Eh bien, vous, quand vous cassez une vitrine, eh bien, vous cassez quelqu'un, n'est-ce pas ? Eh bien, après, vous lui demandez pardon, mais ensuite, vous devez réparer, vous devez être plus aimable, remonter le mal que vous lui avez fait. Et donc, cela est dû à la justice. Dieu est un être éternel et tout-puissant qui a voulu créer de l'être des esprits intelligents et volontaires, les anges, les êtres humains qui sont intelligents et volontaires, mais qui partagent la création matérielle des animaux et de la matière inerte, par notre calcium, notre fer, notre oxygène, notre hydrogène, notre eau. Voilà, nous sommes des êtres à protéger autant que la planète, bien plus d'ailleurs, parce que il y a eu des catastrophes naturelles épouvantables sur la Terre, indépendantes de l'être humain. L'être humain est plus important que la planète. Je vous dis ça parce que c'est pas politiquement correct, mais j'insiste. On se fout complètement de la planète, excusez-moi. Elle peut être cramée, elle peut avoir des raz-de-marée, des tremblements de terre. L'important, c'est de veiller à une vie humaine. Voyez, si ça vous choque, je suis très fatigué en ce moment. Donc, je ne vais pas prendre de gants pour vous dire que tout ça, c'est de la propagande anti-humaine. Et je me fous complètement de la déesse Gaïa, elle peut crever, n'est-ce pas ? Que ça ne me fera ni chaud ni froid. Et, et la planète Terre, vous savez, elle se débrouille très bien sans les hommes. Et nous sommes une pichenette sur le climat, nous sommes une pichenette sur la pollution. Par contre, ceux qui sont dans des villes polluées et autres en meurent. Mais en ce qui concerne la propagande intellectuelle et idéologique, de vouloir que la planète soit plus importante qu'un être humain ou qu'un enfant, ça c'est profondément immoral et contre nature. Dixi, comme disent les francs-maçons. Donc, et comme disent en fait les cardinaux lorsqu'ils interviennent à un concile ou à un synode, à la fin de leur intervention, ils disent « J'ai dit ». Dixie. Donc, je prends pour vous présenter le purgatoire, le catéchisme catholique du cardinal Gaspari, qui a été, fait par le cardinal du même nom, à la demande de Rome. Et ce catéchisme fait référence jusqu'au catéchisme de 92. Et donc, il a été édité en français en 1932, mais il a pour origine les années 1930. Il a été écrit en latin, traduit ensuite, et c'est un catéchisme universel très intéressant parce que pour la première fois, de manière explicite, on parle des âmes du purgatoire qui prient pour nous. Et ça, c'est un enseignement qui est plus ou moins connu, mais qui là est particulièrement présenté. Dans le catéchisme dit catholique, le catéchisme du cardinal Gaspari a un terme, a un nom spécial, il s'appelle catéchisme catholique. Vous le trouverez sous ce terme. Ou catéchisme romain, mais ça peut être plutôt le catéchisme du Concile de Trente. C'est la question 175. Alors, il a été édité, on peut le retrouver actuellement sur eBay, Catéchisme catholique, cardinal Gaspari, les éditions du Cerf, Juvisy, Seine-et-Oise, 1932. Question 175. La communion des saints s'étend-elle aussi aux âmes du purgatoire? Oui, la communion des saints s'étend aussi aux âmes du purgatoire. En ce sens que, d'une part, nous pouvons leur venir en aide par nos suffrages. C'est un terme un peu ancien, ça veut dire par nos prières. C'est-à-dire par le sacrifice de la messe, l'assistance au sacrifice de la messe, l'offrande d'une intention de messe. Vous demandez à un prêtre de prier spécialement pour toutes les âmes du purgatoire, ou pour une âme en particulier, ou pour une famille, les défunts d'une famille. Et à cette occasion, vous donnez un poulet et un litre de vin au curé pour qu'il vive. Il prie pour vous, il offre la messe pour vous, il faut qu'il mange. Avec le temps, ne vivant plus dans des villages, on vous demande de l'argent. C'est 17 euros l'offrande actuellement pour qu'un prêtre vive, prenne son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner. L'offrande est une offrande journalière liée à la journée du prêtre. Et on lui demande de prier lors de la messe. C'est pas la messe qu'on paye, c'est la journée du prêtre. C'est la raison pour laquelle un prêtre ne peut prendre une offrande qu'une fois par jour. S'il célèbre deux messes, il ne prendra qu'une seule offrande. Et la personne qui fera une offrande sera versée à la paroisse. Et donc, on demande au prêtre d'offrir le saint sacrifice de la messe pour une intention précise. Plus particulièrement pour des défunts, mais aussi pour des personnes malades, pour des faits, pour réussir un examen, pour les peurs des païens. Mais on peut aussi offrir une messe pour la conversion de quelqu'un, pour une réconciliation avec quelqu'un. C'est une prière pointue, forte, qu'on demande, parce que c'est à l'occasion du Saint-Sacrifice de la messe. C'est ainsi que, lorsqu'on avait découvert chez un moine des pièces d'or cousues dans son matelas, le père abbé, qui sera le pape Saint Grégoire le Grand, dans les années 600, donc, va être un peu contristé, tout le monde va être contristé, on dit qu'est-ce qu'il est devenu ce moine. Eh bien, on a célébré 30 messes pour lui, d'affilée, mais pas pour arriver à 30. Hein. Saint Grégoire, le père abbé, c'est vrai, la messe tous les jours pour ce moine. Le 30e jour, il a vu l'âme du moine sortir du purgatoire et aller vers le ciel. On appelle cela la coutume du Trentin grégorien, qui fait la richesse des monastères et des prêtres diocésains qui ont de la place pour dire 30 messes de suite pour les âmes du purgatoire. Et là, le Trentin grégorien, c'est pour une seule âme. Par piété, on devrait se priver et faire vivre les moines pour 30 messes. Voilà. Donc, les indulgences, à nouveau, c'est une question de sous-sous, n'est-ce pas? Donc, ça a scandalisé à l'époque, au XVIe siècle. On disait, vous allez faire une offrande pour la construction de la basilique Saint-Pierre. Vous achetez une pierre, vous contribuez à la construction de la basilique, et en récompense, eh bien, les âmes du purgatoire seront soulagées. Ou alors, votre purgatoire sera diminué d'autant, parce que c'est une œuvre pie de construire une église où des gens vont prier, où la messe va être célébrée. Alors, en effet, vous contribuez à la construction d'une église, et là, pour le coup, ça fait quand même 5 siècles. Que les gens prient à Saint-Pierre. C'est pas mal. C'est un bon investissement. 5 siècles de prière et de messe. Oui, mais pour certains, c'était trop proche. L'argent donné, l'aumône donné, pour une œuvre spirituelle, mais de l'argent. Donc c'était scandaleux. Et donc on a arrêté les indulgences par offrande, par don. Allez. Donc, ce qui fait que quand vous donnez le denier, on vous dit merci. Voilà, et on vous dit certes, Dieu vous le rendra, mais on ne vous assure pas telle grâce spirituelle. Dans les indulgences, on disait vous aurez 500 jours, vous aurez 10 ans de purgatoire en moins si vous donnez 100 pièces d'argent pour la construction de la basilique Saint-Pierre. Donc, vous comprenez bien que le moine Luther, qui était déjà dans les filets de ses propres remords et angoisses, lorsqu'il voyait ses évêques qui avaient une bague à chaque doigt et qui pensaient plus à acheter des œuvres d'art qu'à prier pour leur évêché, leur diocèse, ben c'était scandale sur scandale. Et donc le protestantisme a fleuri sur cette faiblesse et ces péchés de catholiques. Enfin catholiques, de personnes catholiques. Parce qu'en soi, les indulgences ont été maintenues par des œuvres. C'est-à-dire, si vous priez le chapelet avec une autre personne, à deux, vous avez une indulgence plénière. Si vous dites le Magnificat, si vous priez un chemin de croix, vous avez des indulgences. Qu'est-ce que c'est qu'une indulgence? C'est une promesse de l'Église sur les mérites de Jésus et sur les prières des saints, les mérites des saints, de la Vierge Marie et de tous les saints, que votre acte sera dépassé en mérite par le pouvoir qu'a l'Église, qu'a le successeur de Pierre, vicaire du Christ, qui vous dit, vous dites un chemin de croix, c'est comme si vous en disiez 10. Oui, mais c'est quoi? C'est des mathématiques? Ben oui, c'est des mathématiques spirituelles. C'est-à-dire que on vous dit, vous faites cet acte-là, alors que vous n'aviez pas forcément envie de le faire maintenant, eh bien, il est plus méritoire que si vous l'aviez fait à un moment qui vous plaît. Vous vous forcez à le faire, ou vous voulez le faire d'une manière pieuse, particulière, eh bien, l'Église vous dit, eh bien, on demande à Dieu de vous donner plus de mérite. Vous priez dans une église du 1er novembre au 8 novembre, du 2 novembre au 8 novembre, vous allez dans un cimetière. On vous dit, vous allez compenser les péchés à réparer, pas la faute elle-même. L'âme a demandé pardon pour sa faute, mais les conséquences de sa faute. Eh bien, les mérites d'aller dans un cimetière valent la réparation de nombreux péchés pour une seule âme du purgatoire. Vous dites, c'est disproportionné, je vais dans un cimetière, je prie pour quelqu'un et je le soulage énormément par ma compagnie, par ma communion de grâce. Eh bien oui, parce que vous vous êtes confessé dans les 2 semaines avant, les 2 semaines après ce jour-là, Vous avez communié le jour même, mais dans les siècles passés, communier, c'était très préparé. Donc c'était pas la rigolade de communier. Actuellement, on se sent obligé de communier, les gens vont communier, alors je vais communier. Voilà. Mais les jansénistes, eux, ils en avaient fait une communion par an et encore, ils étaient écrasés par leur indignité. Ils rampaient jusqu'à la communion, mais bon, c'est excessif. Et puis nous, on communie tous les dimanches, tous les jours, si on va à la messe tous les jours. C'est tout à fait possible. Mais auparavant, voyez-vous, on avait l'autorisation de son confesseur de communier aussi souvent. Pour pas que ça devienne une routine. Il faut que ça soit pieux, la communion. Et, alors, et, les hommes, vous savez, ces ours, ils communiaient une fois par an, hein, à Pâques. Ils étaient là. Bon, je vais me confesser à monsieur le curé. Il faut se confesser une fois par an. Il faut communier une fois par an à Pâques. Donc j'y vais. Donc ils allaient se confesser et puis ils communiaient pour Pâques. Au moins une fois par an, sur commandement de l'Église. Et vous aviez des gens un peu plus pieux qui communiaient pour Noël, pour Pâques, pour le 15 août, l'Assomption, pour la Saint-Pierre-Saint-Paul, le 29 juin et pour la fête du Saint-Sacrement. Et ils communiaient 3-5 fois par an. Ça, c'était vraiment l'élite. Et puis alors ensuite, vous aviez les mystiques dingos qui, eux, communiaient tous les mois. Enfin, ils avaient entendu quand même le message de Sainte Marguerite Marie. Et notre Seigneur avait proposé pour un moyen de salut très particulier, c'est de se confesser au moins dans sa vie 9 vendredis de 9 mois consécutifs. Donc se confesser une fois par mois, 9 mois, au moins une fois dans sa vie. La Vierge Marie le fait moins cher, c'est 5 fois. On confesse pour le premier samedi du mois et on communie le premier samedi du mois. Et comme la Vierge Marie a un peu d'influence sur son fils, il a obtenu et l'enfant Jésus a dit « Bon, le dimanche qui suit le premier samedi du mois, si vraiment vous ne pouvez pas aller à la messe le samedi, qui est le jour de ma mère, au nom de son cœur immaculé, le premier samedi du mois, eh bien vous pouvez communier pour le premier samedi du mois, le dimanche qui suit. » Qui est le lendemain, en fait, et donc la messe du dimanche. Vous faites d'une pierre deux coups. Ah, toc. Et donc tout cela, voyez-vous, c'est quoi? C'est vous demander, au moins une fois dans votre vie, de vous confesser 5 fois de suite, ou 9 fois de suite, et donc de provoquer en vous une recherche par rapport au péché véniel, plus qu'au péché grave, ou qu'au péché qui alourdit votre conscience. Pour que vous ayez au moins une fois dans votre vie un peu plus de scrupules à faire le bien. Et bien là, maintenant que nous sommes au 21e siècle et que nous sommes les derniers des Mohicans et que les églises sont vides, les séminaires sont vides et que tout est foutu, et bien, enfin en Occident, vous me direz, en Philippines c'est merveilleux, mais enfin allez aux Philippines et vous verrez comment il s'écroule gentiment et à la vitesse de la lumière. Et donc, par américanisation, occidentalisation, et en Afrique, j'en parle même pas. Donc, comptez bien sur les chrétientés nouvelles pour vous apporter des bonnes sœurs et des prêtres, hein, pendant qu'il est encore temps, hein, 5-10 ans. Hein, et puis après, quand eux seront aussi pourris que vous, vous serez là, bah alors, qui va nous aider? Alors, on verra bien. Et donc, eh bien, c'est se confesser au début du mois, pour le premier vendredi ou pour le premier samedi. Communier le premier samedi du mois. Le premier vendredi du mois, il n'y a pas d'exception. C'est que le vendredi, premier vendredi du mois. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, le Sacré-Cœur, il vous promet des grâces, le salut, la grâce même au moment de votre mort, de mourir en état de grâce. Vous allez me dire, mais c'est comme les indulgences, c'est vraiment disproportionné. Une fois dans votre vie, vous allez vous confesser pour le premier vendredi du mois. 15 jours avant, 15 jours après, grosso modo, pour le premier vendredi du mois. Et vous communiez le premier vendredi du mois. Mais vous faites ça 9 mois de suite. Et le sacré Jésus vous promet, au nom de son Sacré-Cœur, qu'il vous donnera des bénédictions, des consolations, et que vous sauverez votre âme. La Vierge Marie à Fatima a dit, oh, moi je vaux 5. Ouais, mon fils est né 9. Voilà, c'est 5. Donc, ah, mais il faut dire le chapelet et rester en silence 15 minutes le premier samedi du mois. Vous confessez dans les 15 jours avant, 15 jours, 3 semaines. Si vous êtes d'affreux pécheurs et que vous vous cassez la figure, ben, il faut se confesser avant. Vous n'allez pas faire une communion sacrilège pour le premier vendredi du mois ou le premier samedi du mois. Et ensuite, eh bien, vous, le premier samedi du mois, vous dites le chapelet, vous restez 15 minutes assis, vissé à votre chaise, les yeux fermés, sans bouger. Voilà, ça s'appelle faire oraison, même si vous ennuyez, si vous pensez à autre chose. 15 minutes de silence, chrono. Et la Vierge Marie vous dit, à votre mort, je viendrai vous soutenir pour avoir fait 5 samedis du mois. Eh oui. Mais les âmes du purgatoire, elles, elles sont mortes, hein, enfin, ces personnes sont mortes, et eux, ils rigolent plus du tout sur le surnaturel et ce genre de négociations et d'échanges de grâce. Vous voyez. C'est la raison pour laquelle l'Église a toujours enseigné et enseigne toujours. Oui, la communion des saints, c'est-à-dire la communication des mérites entre toutes les personnes humaines, s'étend aussi aux âmes du purgatoire, en ce sens que d'une part, nous pouvons leur venir en aide par nos suffrages, notre prière, nos mérites, c'est-à-dire par le saint sacrifice de la messe, les indulgences, on prie aux intentions du souverain pontife, on se confesse, on communie le jour même, on se confesse avant ou après si vous êtes simplement un colérique ou une personne médisante, enfin il vaut mieux se confesser avant. Le jour même, vous communiez et vous priez aux intentions du souverain pontife. Les intentions du souverain pontife sont objectives. C'est l'évangile prêché à toutes les âmes, c'est-à-dire l'incarnation, le salut par Jésus, né de la Vierge Marie. Le baptême, la mort et la résurrection en Jésus, pour toutes les âmes, les aborigènes, les esquimaux, et les celtes, les gaulois, les francs, les maliens, et la terre de feu, et les chinois, et les indonésiens, et les tibétains, tout le monde, le baptême pour tout le monde, voyez, même pour le Dalai Lama, qu'il arrête d'embêter les esprits démoniaques à vouloir les invoquer toutes les 5 minutes pour remonter à 10 cm en l'air, hein, ça ne sert à rien, et se vider la tête. Voilà. Et donc, ça c'est la première intention du souverain pontife, c'est faire connaître l'amour de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, l'incarnation, le baptême. Première intention du souverain pontife. Deuxième intention de ce souverain pontife, lorsqu'on a été baptisé, persévérer la conversion des pécheurs. Donc le baptême, la conversion des pécheurs. Ensuite, ce qui peut atteindre la foi, c'est les hérésies. Donc la fin des hérésies, que les protestants deviennent catholiques, que les anglicans deviennent catholiques. Voilà. Ensuite, donc la première intention, c'est que les juifs reconnaissent leur Messie, que les musulmans abandonnent Mahomet et reconnaissent qu'en fait que Jésus est Dieu et qu'il est mort sur la croix, et pas seulement qu'il est né d'une vierge, et qu'il va revenir à la fin des temps. Ça c'est... Et donc, et que les bouddhistes et les hindous aussi deviennent chrétiens. Et donc la troisième intention, donc c'est la fin des hérésies. La quatrième intention, la fin des schismes, où on se dispute pour des prunes, hein, pour savoir si il faut avoir la barbe, du pain azyme, gonflé, pas gonflé, vous voyez. Qu'il y a eu le sac de Constantinople, il y a Perpète les oies, Voilà. Et la cinquième intention, la paix entre les nations, par la foi chrétienne. D'ailleurs, il ne peut y avoir de paix que par la foi chrétienne. Donc ça, pour avoir une indulgence, il faut prier à ces cinq attentions. le baptême proposé à toutes les âmes, la conversion des pécheurs, de ceux qui sont dans la méchanceté et la haine, la fin des schismes et des hérésies, et la paix entre les nations. Et l'ultime intention, c'est le bonheur des chrétiens sur terre en attendant le ciel. Donc si vous priez pour ça, en fait, vous priez pour le salut des âmes. Et ce qui fait que Dieu, il est content. Et il dit aux âmes du purgatoire, vous avez vu, les vivants qui sont dans le mérite parce qu'ils ne m'ont pas vu, vous m'avez vu à votre mort, hein ? Ça vous a fait tout drôle, hein ? Ah oui, oui, oui. Hein, mais bon, vous êtes au purgatoire, donc vous aviez cru en moi, même si c'était diffus. Hein, le petit Inca, là, dans un coin. Ah oui, oui, pour moi, vous étiez le soleil, vous étiez... Mais j'ai toujours trouvé très lourd, très mauvais ces sacrifices humains qu'on faisait. Non, je préférais la bonté de ma grand-mère, j'aidais mon prochain et tout ça. Et, ben oui, c'est bien pour ça que tu t'es sauvé, mon cher ami. Mais, tu réprouvais dans ton cœur tout ce qu'il y avait de faux dans la religion que on te proposait. Et ça, voyez-vous, c'est le salut par l'ignorance invincible de la perfection de Dieu. Et vous avez des âmes qui cherchent la vérité à travers les siècles et à travers les territoires, les peuples. Eh bien, ces âmes se sauvent. Enfin, certaines, justement, ont des choses à réparer. Si elles ont été cruelles, si elles ont eu des remords de conscience parce qu'elles ont divorcé ou parce qu'elles ont fait de la peine, ils ont été polygames parce qu'ils ont tué certains de leurs enfants parce qu'ils étaient surnuméraires, n'est-ce pas ? Mais qu'à la fin de leur vie, ils ont dit, c'était vraiment d'un égoïsme profond. Ils ont été touchés par la grâce. Ouais. Eh bien, toutes ces âmes sont au purgatoire. Et vous avez des personnes très fortes, d'un très fort caractère, qui avaient des mœurs un peu rudes dans l'Ancien Testament. Abraham, je ne pense pas qu'il ait... Il a été au limbe des patriarches, c'est-à-dire dans un état de l'âme qui attend la venue du Messie. Mais il n'était pas au purgatoire, ou il n'était pas en enfer. En enfer, c'est la haine de Dieu. Mais au purgatoire comme en enfer, il y a une peine due à la méchanceté. Regretter le purgatoire, mais pas assez réparé, et la méchanceté actuelle. On est brûlé par un feu identique et un feu physique. Ce n'est pas le feu de l'amour, n'est-ce pas ? C'est un feu, mais réel. Prenez un briquet et testez. C'est ça qu'il y a au purgatoire. C'est ça qu'il y a en enfer. Alors, mais pourquoi vous dites ça ? Parce qu'on l'a dit pendant des siècles. Et ça a sauvé pas mal de personnes. Parce que c'était la crainte servile. Vous voyez ? Ils avaient peur d'être brûlés vifs. Je les comprends. Et donc, mais c'est vrai, mais c'est toujours vrai. On peut vous dire toute autre chose. Au purgatoire comme en enfer, il y a le même feu. C'est la gifle. Vous avez un enfant qui dit à sa mère « Tu m'ennuies, laisse-moi en paix. » Vous avez vu que j'étais pas trop vulgaire. Hein. « Sors de ma vie. » Et là, vous avez la maman qui lui fout une claque. Ça fait comme des timbales pendant une, deux minutes. Eh bien, la douleur physique, vous voyez, de la gifle, vous voyez, amplement méritée jusqu'à ce qu'elle soit interdite par l'Assemblée nationale, eh bien, figurez-vous que cette douleur, elle est légitime, elle est juste. Alors si la maman lui donne une gifle matin, midi et soir, ça ne veut plus rien dire. Mais moi, j'ai reçu deux gifles de ma mère. Vous allez me dire, mais comment ça se fait ? Mais j'ai été insolent deux fois. Mais l'insolence méchante. Ma mère, qui est une sainte femme, elle a 81 ans, eh bien, elle a senti l'injustice et elle m'a puni. Eh bien, je regrette aucunement ces deux claques. Mais attention, il est bien évident qu'en justice et en vertu, les parents ne doivent pas battre excessivement et punir excessivement leurs enfants. Saint Paul lui-même, le grand Saint Paul, le dit. On ne doit pas exaspérer ses enfants. Exaspérer ses enfants. Mais on doit obéir à ses parents. Eh bien, voyez-vous, le purgatoire, c'est les gifles de Dieu. Voyez. Sauf que l'enfant n'est pas dans la haine de sa mère, voyez, mais il a besoin de ressentir la douleur du péché. Et donc, c'est des machines à claques au purgatoire. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes... Pan, 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 pan. Il dit, mais bon, c'est bon, j'ai compris. Non, non, t'as pas tout à fait compris. Il faut que ça rentre dans ta tête le mal que tu as fait. Ah oui, je comprends et je regrette. Et... Mais ça serait trop physique, des coups. Non, le feu, c'est plus diffus, c'est plus lent, c'est plus... Ça vous prend tout le corps, c'est... Non, c'est original. Mais ce que je vous dis est vrai, hein. C'est sur le mode de la plaisanterie, parce que je ne peux pas me changer, mais c'est comme ça. Les indulgences. Donc vous priez aux intentions de la Sainte Église catholique romaine, gouvernée par le souverain pontife, le pape, qui est successeur de Pierre et vicaire du Christ, et qui a les intentions du Christ. Vous ne priez pas pour les intentions d'Alexandre VII, qui, le soir même, dit « Qui vais-je tuer ?»« Qui vais-je assassiner ?»« Comment je vais récupérer le pouvoir sur cette ville ?» Parce qu'il se révolte un peu contre moi dans mes états pontificaux. Voilà. Donc non, ce n'est pas ça les intentions du souverain pontife. Les prières. Les aumônes. Ah, quand même. Eh bien si. Mais pas avec des indulgences. Les aumônes, comme ça. Quand vous donnez de l'argent à un pauvre, quand vous donnez de l'argent à une œuvre et que ça vous pique, vous dites c'est inutile. Alors moi, je donne seulement aux pauvres qui ont les mains sales et des chaussures pourries. Parce que quand vous avez des chaussures pourries, en règle générale, vous êtes vraiment dans la rue. Vraiment, vraiment. Et alors vous avez dit, vous êtes un peu sévère, il y en a qui se tiennent propres et qui changent leurs chaussures, qui lavent... Eh ben, ça veut dire qu'ils peuvent se tenir propres, qu'ils ont de l'aide ou qui... Tant pis pour eux. Voilà. Mais celui qui a des chaussures mais pourries et qui est en train de crever, et ben là, pour le coup, je lui donne l'argent pour qu'il... Alors vous avez dit, mais il va boire du vin. Je lui dis, mais... Enfin, il va mourir. Hein. Donc, il est... Dans quel état il est de ne pas se laver les mains, d'avoir les mains toutes poisseuses. Vous voyez. Bon. Voilà. Les aumônes. Alors par contre, moi aussi, je ne donne pas des œuvres dont je sais que les chefs vont dans des hôtels. Hein. Non, je préférerais couper la main. Hein. Je ne donne pas non plus à des œuvres qui font des choses horribles. Donc, voyez-vous, donc j'essaye de trouver des œuvres où l'argent va aux pauvres, où l'argent va aux religieuses. Et encore j'aime bien les religieuses parce qu'en général elles sont radines quand c'est pas possible. Donc voilà, elles sont là, et elles économisent les timbres, les enveloppes, tout. Donc normalement, quand vous leur donnez de l'argent, les aumônes. Et toutes les œuvres de piété et de pénitence, les chemins de croix, supporter quelqu'un de désagréable, voyez, les œuvres de miséricorde. Instruire les ignorants, exhorter les pécheurs, ça coûte. Hein. C'est tellement plus simple de dire à quelqu'un « Oh, mais vous êtes en concubinage, mais vous vous aimez. » Ben non, quand je vois un couple en concubinage, je dis « Ben vous vous aimez pas. Pourquoi vous dites ça ? Ben parce que vous n'êtes pas marié. Si vous aimiez, vous seriez marié. Ah oui, mais vous rendez compte, on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire le mariage et tout. » Eh bien, faites un mariage plus simple, si vous vous aimez. Soyez romantique. Quoi ? Non, il faut attendre 5 ans, on aura un petit château, on aura un traiteur et tout. Ah bon, c'est plus important que de vous déclarer votre flamme devant Jésus ? Ah oui, mais ces conventions sociales nous ont tués. Aussi bien en Occident qu'ailleurs, en Inde, même les catholiques, pour se marier, ils s'endettent sur 20 ans. Même les catholiques, C'est les hindous, c'est Vishna et Vishnu qui se marient hein, à chaque fois qu'il y a un mariage. Donc je vous l'ai déjà dit, hein, dans les villages hindous, le premier qui divorce, on lui coupe la tête hein, et on le balance dans le Gange. Parce que franchement, si vous voulez, les parents, ils ont mis tout l'or qu'ils avaient sur la femme pour sa dot. Ils ont payé une semaine de repas, de machin et de trucs. Et dit, ah ben on s'aime plus, on a vu ça dans un film américain. Donc, ça c'est les efforts de vertu.